Eh bien, on va commencer en petit comité, alors. Hein, rapprochez-vous, venez, ayez chaud avec nous. Rome, sous-titre, unique objet de mon ressentiment. On en parlera peut-être tout à l'heure de cette phrase de Corneille dans Horace. Je vous présente d'abord le panel d'écrivains qui est à mes côtés. À ma gauche, il y a Rachel Tanner, qui a écrit, on va parler de Rome surtout, donc l'empreinte des dieux et le glaive de Mitra, il y a déjà une dizaine d'années, non, dix ans pour le premier, 8 ans pour le deuxième, allez, qui sont reparus en poche chez ces points, ça
c'est... Oui, c'est le point seuil, oui, tout à
point
fait.
Seuil.
Point seuil fantasy, oui.
Qui se passe dans une Rome parallèle, qu'un siècle après la fondation de Rome ou de l'Empire?
Oui, c'est ça, 8e siècle après Jésus-Christ, mais à part que comme c'est pas Jésus-Christ, c'est Mitra, donc...
Voilà. Alors, au bout à droite, Fabien Clavel, qui lui a beaucoup produit des choses en fantaisie, en SF, en fantastique, je dois en oublier. Son dernier bouquin s'appelle Le Châtiment des Flèches et ça se passe en Hongrie. Mais c'est là où il vit maintenant, où il a fini de vivre à Budapest.
J'y vivais depuis 4 ans et là je rentre en France cet été.
Voilà. Et Rome, c'est dans la cité de Satan, un péplum uchronique aussi. Mais voilà, on en parlera tout à l'heure. Au milieu, Charlotte Bousquet, qui a écrit beaucoup en fantasy. En fantastique, et qui a sorti l'année passée Princesse des Eaux, qui parle là, qui est la Rome de Adrien, de l'empereur Adrien, donc 130, quelque chose comme ça, après Jésus-Christ.
120, c'est juste 120. Au début de son règne.
Héroïne Lucrécia, on en parlera aussi, et Christina Rodriguez, qui a écrit 3 bouquins d'une série sur un prétorien qui s'appelle Caeso, et qui tente dans la Rome de quelle époque, de l'époque de l'Empire, du début de l'Empire, de résoudre des énigmes. Alors, on pourrait demander d'abord, puisque chronologiquement, je crois que des 4, c'est la première à avoir écrit sur Rome, pourquoi Rachel Tanner a-t-elle choisi Rome, et plutôt que de faire une Rome réelle, de faire une Rome uchronique, parallèle?
Ce qui m'intéressait, c'est, et pour reprendre un peu, faire le parallèle avec ce qui a été dit tout à l'heure, c'est l'idée que les empires naissent, vivent et meurent, que rien n'est inscrit en fait, rien n'est déterminé à l'avance. Et donc, l'empire romain que l'on imaginait immortel, parce qu'il a quand même duré un certain nombre de siècles, et c'était vraiment la civilisation, avec... cet empire a fini par tomber, et aussi bien dans l'Uchronie que j'ai imaginé, il aurait pu ne pas tomber. Je pense qu'on a une vision un peu stéréotypée de l'histoire, à savoir que les choses se sont déroulées comme ça, donc elles devaient se dérouler comme ça. Et après, je suis historienne de métier, de formation, et après moult réflexions et à l'encontre finalement de ce qu'on nous a appris dans les universités, je pense exactement l'inverse. Je pense qu'on redéroule l'histoire 100 fois, 100 fois elle se déroule différemment. Quand on regarde par exemple cette espèce de surjon qu'est l'Empire byzantin, aussi bien l'Empire byzantin aurait pu disparaître au même moment que l'Empire romain d'Occident. Donc avec cette idée que l'histoire comme ça peut prendre 1000 chemins différents, J'ai joué avec cette idée. Alors au départ aussi, toute gamine, j'avais cette phrase de Renan qui disait « Si par quelque accident mortel le christianisme avait péri, Rome eût été mitriaste. » Et donc cette phrase, je ne sais pas pourquoi, résonnait en moi. Et donc j'ai imaginé une Rome mitriaste. Et à partir de ce moment-là, alors c'est un peu tiré par les cheveux parce que je ne pense pas que ce soit tout à fait exact, mais... l'idée que le christianisme et la chute de l'Empire romain sont un peu liés, à savoir que les chrétiens avaient une idée comme quoi finalement la réalisation humaine n'était pas de ce monde, mais était dans le monde d'après, donc on ne devait pas tellement se préoccuper de ce monde matériel, et c'était une religion à l'origine en tout cas qui était un peu pessimiste malgré tout, noir malgré tout. Le mithriaticisme, c'est absolument l'inverse. C'est une religion triomphante, puisque le Dieu, certes, meurt, mais il est ressuscité, comme le Christ. Mais enfin, le Christ, il est ressuscité quand même, il meurt dans la douleur, et il est ressuscité d'une manière assez spéciale. Alors que Mithra triomphe, le monde est sauvé, et donc, à partir de ce moment-là, c'est une religion très optimiste, le mithriacisme, et très ancré dans ce monde. Donc, l'idée que j'ai eue, c'était que la permanence de Rome est liée au triomphe du mithriacisme. C'est une idée littéraire. Je ne pense pas que ce soit une idée très valide au niveau historique, hein, en fait.
Et Fabien, pourquoi aussi une Rome parallèle ?
Bah, c'est un peu la même idée, puisque c'est un grand fantasme quand même, quand on s'intéresse à Rome, de voir que l'Empire aurait pu se poursuivre sur des siècles et des siècles. Et moi, je suis parti aussi d'un renversement religieux. C'est-à-dire que ce roman, je l'ai écrit aussi parce que j'avais lu une biographie de Julien Laposta qui m'avait fasciné, sachant que Julien Laposta, donc c'est 361-363, il règne 3 ans à peu près, et il est nommé Laposta parce qu'il est élevé dans le christianisme, l'Empire est déjà chrétien à l'époque, et par le plus pur des hasards, il se retrouve à être empereur, alors que toute sa famille a été massacrée, qu'on l'a mis de côté.
Ils sont puis tous décimés, oui.
On l'a réutilisé.
La famille de Constantin, oui.
Oui, voilà, c'est ça. C'est un massacre absolu. Donc, il a une histoire assez catastrophique. La biographie a été écrite par Lucien Gerfagnon, ce qui peut participer aussi à la fascination qu'on peut éprouver, qui est une biographie absolument extraordinaire. Je vous encourage à la lire, si vous ne l'avez pas lue, parce qu'il a beaucoup d'humour.
Je puis soir.
Voilà, c'est un plaisir. C'est un vrai bonheur à la lire. Et donc je suis parti de ça en imaginant qu'il avait... Et alors, excusez-moi, j'oubliais une partie. Donc à peine est-il sur le trône qu'il commence à réinstaurer le paganisme. Évidemment, ça ne va pas marcher puisque au bout de 3 ans de règne, il est en campagne en Orient et il reçoit une lance dont la blessure lui sera fatale. Peut-être envoyé d'ailleurs par ses propres troupes, sans doute un soldat chrétien mécontent, sachant que ça s'est beaucoup crispé. Hein. Au départ, il y a une égalité, puis plus il avance, plus il donne l'avantage aux païens. Et donc j'ai essayé d'imaginer ce que ça aurait donné si cet empereur avait vécu 100 ans. C'est-à-dire il est blessé simplement, mais il survit sans problème. Avec le principe aussi que la disparition c'est la thèse des païens d'ailleurs, hein, souvent qu'on reprend là-dedans, c'est que le christianisme a précipité la fin de Rome. Et mon idée aussi, c'était d'écrire un anti-Quo Vadis. J'ai beaucoup aimé Quo Vadis, mais quand on lit Quo Vadis, on a toujours l'idée que c'est vraiment la fin de Rome, justement. Comment dire, les Romains cessent de croire dans leur Dieu, et du coup la place est faite pour le christianisme, et c'est toujours les païens sont quand même méchants ou mécréants, et souvent c'est les deux vont ensemble, hein, quand on lit cette littérature, de même que tous les péplums de l'âge d'or hollywoodien. Et donc moi j'ai voulu renverser la vapeur en présentant donc les chrétiens, qui sont une minorité religieuse, comme des terroristes qui essayent de faire avancer leurs opinions, mais comme ils n'y arrivent pas de façon légale, ils se comportent vraiment extrêmement mal, et ils se sont réfugiés sur l'île de la Cité, puisque ça se passe à Lutèce, où ils vivent un peu entre eux dans une espèce de ghetto appelé le cloaque. Et donc voilà, moi c'était ce renversement qui me plaisait beaucoup pour faire l'inverse, et que le péplum ne soit pas uniquement de la propagande sur le côté civilisateur du christianisme. Et d'ailleurs, depuis, il y a eu un péplum qui est arrivé, c'est Agora. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est le seul péplum où les chrétiens sont présentés comme des ordures. Là, c'est en plus caricatural, mais dans l'autre sens, et c'est très intéressant. C'est eux qui mettent le feu à la bibliothèque d'Alexandrie.
Oui, mais Apathie a réellement été exécutée par les chrétiens.
Ah oui, non, vraiment, bien sûr. De toute façon,
ce
après,
n'est pas une
si on choisit, mais la façon dont ils sont présentés, ils sont habillés tout en noir, ils sont méchants, ils sont maquillés, enfin, ils sont vraiment présentés. La vision est tout de même caricaturale, mais en renversant, et c'est l'intérêt. Donc je vous conseille de voir aussi Agora, hein, Amenabar, voilà, et qui est, moi je le trouve extraordinaire aussi, parce que c'est très beau, même malgré le côté un peu caricatural. Voilà.
Christina et Charlotte, par contre, ont placé leur fiction dans la Rome réelle, dans la vraie Rome. Alors Charlotte, pourquoi cette ce choix de ce lieu et de cette époque?
Pourquoi Rome? Tout simplement parce que c'est un roman qui s'inscrit dans une collection historique et que, un petit peu comme Fabien, j'aime beaucoup Rome. J'ai beaucoup lu de Lucien Gerfagnon. Ça a beaucoup aidé au fait que je m'intéresse vraiment, vraiment beaucoup à Rome. Et pourquoi, en fait, le lieu, l'époque, en fait, je cherchais quelque chose qui ne soit pas... on va dire qu'il soit un peu une charnière positive. Donc le début du règne d'Adrien se déroule en tout cas à Rome dans un calme assez relatif pour l'époque. Et ce qui m'intéressait, moi, c'était une vie de quartier. C'était vraiment quelque chose qui soit à l'échelle d'une famille, une histoire de vengeance, donc assez romaine, et vraiment de revivre ou réinventer le quotidien de ces Romains de 120. Donc, j'ai vraiment choisi exprès quelque chose qui soit, enfin, une période qui soit relativement calme.
Vous pouvez répondre à la même question, Christina.
Pourquoi Rome?
Oui.
Bah écoutez, moi j'aimerais bien vous donner une excuse en disant que j'ai lu un auteur qui m'a transcendé, ou j'en ai pas. Moi je suis tout simplement née à León en Espagne, je suis espagnole. J'ai grandi là-bas, rue de la 7e Légion. Parce que voilà, la 7e Gemina était basée là-bas. Voilà. J'avais un grand-papa archéologue, un arrière-grand-papa historien, et j'ai fait comme Obélix, je suis tombée dans le chaudron, quoi. Donc c'est tout ce que je peux dire pour ma défense.
Mais en fin de compte, quand on est à Rome, même dans la Rome réelle de Charlotte et de Christina, on est dans un monde totalement différent. Et on n'est peut-être pas dans une uchronie ou une utopie, mais on est vraiment dépaysé, comme quand on lit un roman de fantasy. C'est cet aspect-là aussi qui vous a fasciné, Charlotte, cet aspect assez magique de la Rome, des pratiques de sorcières, de sorcellerie, de magie. La magie imprègne le quotidien.
Complètement, en fait, j'ai eu l'idée précise du roman en relisant un bout de Horace qui décrit les pratiques de sorcellerie de l'époque, qui sont en fait des vieilles sorcières qui vont, enfin, trois sorcières qui vont les déterrer des ossements, tuer des bébés, éventrer, et c'est vrai. Et en fait, c'est vrai qu'ils ont un rapport à la magie, un rapport au dieu qui est pour nous fantastique. Et ce qui était assez marrant, enfin, le défi que je me suis lancé dans ce roman, c'était aussi de faire un roman fantastique, mais justement qu'il soit historique et que le fantastique paraisse complètement naturel.
Et chez Christina, c'est la cruauté qui compte?
Évidemment, non, pas du tout. Non. Rome, pour moi, mais déjà, ça, quand on pense à Rome, on pense au péplum, c'est solaire, c'est lumineux, c'est doré, on a envie d'y aller, il fait chaud. Donc il y a cette espèce de côté de l'ambiance méditerranéenne qui plaît énormément. Et puis, moi, je trouve qu'ils ne sont pas si différents que nous, finalement.
Si. Ils sont très différents. Il y a une série, tu parlais de péplum. Alors, en série, il y a Rome. Cette série est absolument extraordinaire et même absolument fabuleuse. Et je crois que c'est la première fois qu'on voit... Alors, peut-être Agora, je ne l'ai pas vue. C'est la première fois qu'on voit, justement, combien les gens ont une mentalité différente. Et je crois que c'est la première série ou film où, réellement, ils sont arrivés à rendre ça. Ils ont une mentalité complètement différente. C'est très difficile à imaginer pour nous, en fait. Et même quand on écrit, c'est très difficile de se mettre dans la peau de gens qui pensaient différemment. Parce qu'en réalité, littéralement, on n'y arrive pas vraiment. On ramène toujours inconsciemment à notre façon de fonctionner. Et je trouve que dans Rome, par exemple, le héros ramène des esclaves de Gaulle, c'est tout à fait normal, et puis il n'y a aucun jugement de valeur, quoi. Les esclaves crèvent dans cette espèce d'enclos parce qu'ils sont... Et lui, il n'est pas content du tout parce qu'il a perdu tout son investissement. Enfin, et tout un tas de choses comme ça qui sont totalement naturelles et qu'on voit dans le quotidien se dérouler et qui dénotent un état d'esprit qui n'est pas du tout le même, quoi. Mais on a du mal quand même à vraiment se mettre dans la peau de ces gens.
Réponse de Christina.
Non, comme je vous le disais, moi, pour moi, ils sont très proches. Alors, est-ce que c'est parce que je suis espagnole et qu'on a gardé les mêmes expressions, qu'on a gardé la même façon de vivre? D'ailleurs, je repense à une... On parlait d'un auteur tout à l'heure, mais Sénèque. Je vais vous donner un exemple tout simple. Lorsque Sénèque parle de Caligula, je parle de Caligula parce que je l'aimais énormément, il dit qu'on fait un moment allusion en parlant de lui à chèvre. Et moi, quand je lis les études d'historiens français ou d'historiens américains, ils disent... Mes chèvres, alors c'est parce qu'il était poilu, c'est parce qu'il était ceci, et ça mettait Caligula en colère. Mais chez nous, on a encore l'expression, está como una cabra, il est comme une chèvre, ça veut dire il est fou, tout simplement. Et donc, est-ce que c'est pour ça que je me sens peut-être plus proche d'eux que quelqu'un de français? Je ne sais pas, peut-être. C'est possible.
Les gens restent les gens, simplement.
Oui, non, mais ça, c'est évident. Je suis provençale, hein, je précise. Donc, l'Italie, Rome, ça n'est pas complètement étranger. Au niveau du paysage, au niveau de la canicule, au niveau de tout ça, oui, on vit dans le même cadre, quoi. Les Méditerranéens et tous les Méditerranéens se ressemblent. Mais je pensais pas tellement à ça. Je pensais pas tellement au quotidien, qui, par certains aspects, effectivement, je pense, peut tout à fait ressembler à ce qui se vivait à Rome. Hein, sur les... Je ne sais pas, moi, comment ils bouchaient, par exemple, les cruches d'eau avec des bouchons de liège, garder la fraîcheur, fermer les persiennes, comme on fait dans tous les pays méditerranéens, parce que le soleil tape. Tout ce genre de choses, oui, certainement. Hein, c'est... Mais je pensais plutôt dans la manière de dans la mentalité, je dirais, les valeurs de la vie, quoi, au sens large du terme, en fait. C'était plutôt à ça que je faisais allusion.
Bah justement, ce qui est fascinant dans Rome, c'est que pour... faire un peu la synthèse de ce que vous avez dit toutes les deux, c'est à la fois cette proximité, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui nous sont extrêmement familières. On est quand même encore, malgré tout, imprégné de cette culture antique. Quand on lit les auteurs, là par exemple au programme de Terminal en latin, ils ont Les Amours d'Ovide. Et quand on lit, donc c'est des conseils de drague hein, en fait. C'est beaucoup plus
rigolo. Un amant doit être pas les maigres.
Voilà. Alors il y a plein de conseils de séduction, notamment
c'est
pour.
L'art d'aimer, c'est l'art d'aimer.
C'est l'art d'aimer. Pardon, c'est l'art pas d'aimer. Les amours. D'ailleurs, j'avais c'est dit le mauvais titre à mes élèves qui avaient acheté le mauvais livre. C'était de ma faute. Vous voyez, je continue. Ils m'en ont un petit peu voulu, mais bon, tant pis. Bref, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est quand on lit les conseils de drague qu'il y a chez Ovide, on retrouve des choses extrêmement proches, comme par exemple, on n'est pas tous obligés de faire comme ça, hein, mais pour lui, pour entretenir la flamme, il faut créer des obstacles entre l'amant et l'aimé. Et d'ailleurs, c'est le livre 3, il a parlé aux hommes au début, et dans le livre 3, il dit « Bon, alors maintenant, désolé, mais il va falloir que je parle aux femmes aussi, et peut-être que les armes que je vais lui donner, leur donner, vont se retourner contre nous. » Et donc, il leur dit « Il faut toujours créer du danger. Hein. Un amant qui est calme, c'est un amant qui va être bientôt indifférent et bientôt parti. » Donc, il propose de rajouter de la comédie, c'est-à-dire que quand la femme est avec son amant, il faut que la servante arrive en courant en disant « Nous sommes perdus, c'est affreux, on a été repérés, etc. » S'il peut rentrer par la porte, on lui dira de rentrer par la fenêtre parce qu'il faut, voilà, il faut quand même un petit peu d'ambiance. C'est pratiquement du jeu de rôle, en fait, hein, quand on regarde Ovide. Et en fait, je pourrais prendre un autre exemple. Moi, j'ai pas mal travaillé sur...
Est-ce que je peux faire un petit oui. ajout, si vous me permettez? Excusez-moi, je parle beaucoup, mais parce que dans l'art d'aimer, ce qu'il faut comprendre quand même, c'est qu'Ovide, pourquoi il choquait ses contemporains? Parce que le livre était choquant quand même, hein, il faut bien le dire.
Bien sûr.
Mais en réalité, parce que contrairement à ce qu'on peut imaginer, il y avait des tabous dans le sexe à Rome, bien entendu. Comme dans toute l'Antiquité, on imagine de l'Antiquité totalement libre, sexuellement libre, etc. C'est pas du tout le cas. Il y avait des tabous. Simplement, c'était pas les mêmes que les nôtres, tout simplement. Par exemple, il y a trois tabous très importants à Rome. Un, on ne fait pas l'amour en plein jour. Deux, on ne fait jamais l'amour tout nu. Et on voit, par exemple, sur les frères de Pompéi, même les prostituées gardaient toujours un haut pour... Donc l'idée, déjà, que la femme ou l'homme se déshabillait complètement était assez... Surtout la femme, c'était assez décadent et assez... choquant. Et trois, l'important dans les relations pour un homme, c'était de ne pas être passif. L'important, c'était savoir, je vais le dire vulgairement, excusez-moi, mais sabrer ou être sabré. Et donc, contrairement à ce qu'on imagine, on dit, par exemple, l'homosexualité dans l'Antiquité était très pratiquée, était très libre. Ça n'a rien à voir avec la manière dont on imagine aujourd'hui les relations homosexuelles entre hommes. C'était toujours entre un supérieur et un inférieur. Le supérieur était actif, l'inférieur se laissait sabrer. Donc. Et dans les relations sexuelles entre hommes et femmes, c'était pareil. C'est-à-dire qu'un homme ne devait pas être passif. Et ça choquait beaucoup, par exemple, que des hommes d'État par exemple Jules César, qui était un grand homme d'État, mais apparemment dans ses pratiques privées quand même... laisser paraître une certaine mollesse parce que quelque part des fois il pouvait se mettre au service de son amante, donc c'était des choses qui ne se faisaient pas, donc il y avait des tabous, mais c'était pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui, et Ovide les transgressait justement dans son livre. Enfin, on s'éloigne, excusez-moi, de l'objet du ressentiment, mais puisqu'on parle de l'art d'aimer,
il y a sentiment.
Oui.
Oui, effectivement. Et puis, pour terminer sur Ovid, en passant, c'est que ce qui choque aussi, c'est qu'il écrit ses histoires en disant que ça ne concerne pas les femmes mariées, mais très rapidement, on comprend qu'il s'agit des femmes mariées, et ça intervient au moment où la politique d'Auguste est une politique extrêmement restrictive sur le mariage, les relations conjugales, etc. Donc, on pense d'ailleurs, enfin, certains historiens pensent que c'est la raison pour laquelle Ovid a été exilé à la fin de sa vie. Et l'autre exemple que je voulais prendre, c'est le Satyricon, par exemple. Le Satyricon, alors justement, c'est un trio homosexuel, en fait, c'est une parodie du roman grec, semble-t-il. Et donc on a un trio, effectivement, homosexuel, d'ailleurs bisexuel, parce que dès qu'il y a une femme qui arrive, ça ne pose aucun problème. Il y a effectivement ces tabous qu'on voit. Par exemple, si on réfléchit, le verbe, excusez-moi d'entrer dans des détails peut-être scabreux, mais en parlant de fellation, par exemple, la personne qui subit la fellation, le fait de recevoir une fellation est un verbe actif en latin. C'est le verbe irumo. Chose qui, chez nous, évidemment, est dite de façon plutôt passive. Donc c'est pour montrer que l'activité est vraiment le plus important dans la définition de la liberté chez les Romains du citoyen. Ceci était une parenthèse. Et donc si on regarde dans le Satyricon, alors même s'il y a énormément de différences culturelles, il y a des gags dans le Satyricon. Le Satyricon, c'est très drôle, et pour montrer à quel point ça peut être moderne, il y a un moment où il y a des batailles dans l'auberge, et il y a un personnage qui est extraordinaire, qui est Eumolpe, qui est une espèce de poète plus ou moins raté, qui ne peut pas s'empêcher de réciter des vers en public. Et en général, les gens en ont assez, et lui jettent des pierres, pour faire partir, pour le faire arrêter, parce que c'est insupportable. Et à un moment, donc, il essaye de s'introduire dans un couple qui est déjà existant, le couple principal de l'histoire. Il se fait virer de l'auberge, et là, tous les habitants de l'auberge lui tombent dessus. Et il y a des marmitons qui étaient dans la cuisine, qui débarquent de la cuisine directement, ils étaient en train de faire à manger. Ils arrivent avec des broches, grisillantes encore, et c'est des cris, et ils se battent à l'épée. Lui, il a un chandelier en bois, les autres ont leurs broches grisillantes, et il y a toute une scène comme ça qui est décrite. Et en fait, ce gag, si on regarde bien, on le retrouve dans Gaston Lagaffe. Si vous avez bien vu, c'est le moment où Gaston fait un barbecue dans le bureau et où Le Braque commence à manger les brochettes en disant tiens, c'est un peu dur ça. Et un autre personnage demande mais t'as pas vu ma gomme? Réponse de Gaston, mais on l'a pas mangé ta gomme. Le Braque s'étrangle et ils finissent par se battre tous les deux contre Gaston avec un passage de Prunelle qui dit voilà une belle brochette de cinglé. Et donc ça, c'est pour montrer que malgré toutes ces différences qui sont effectivement réelles et qu'on a tendance à minimiser en ayant l'impression que les Romains étaient exactement comme nous, on a quand même une grande proximité d'esprit. Quand on réfléchit, les philosophes peuvent nous donner des leçons qui sont encore valables aujourd'hui. Et ce qui fait, à mon avis, la force de Rome, c'est ce mélange entre une immense familiarité et à la fois un exotisme total.
Est-ce que ces ressorts comiques ici, comme dit Fabien, de policiers comme chez Christina, est-ce que ces ressorts sont les mêmes que pour le polar actuel dans votre série de Kaino?
Ah, tout à fait. Exactement. Il n'y a rien qui change. On réinvente pas les histoires, on réinvente pas les intrigues, on réinvente pas les histoires d'amour, et d'humour non plus d'ailleurs. Ça a déjà été fait, mais bien sûr que oui.
Princesse des eaux de Charlotte, c'est un bouquin qui est une espèce d'initiation d'une jeune adolescente qui grandit et qui est en but à l'extérieur. C'est aussi un bouquin très très noir avec la sorcellerie, avec des envoûtements, etc. Rome, c'était vraiment si magique et si noir que ça?
De ce que j'en ai lu, oui, en fait, c'est justement un contraste. En fait, Rome m'a fait... Je vais très souvent au Maroc. Et au Maroc, les gens sont... à la fois, vous avez les gens qui sont des Kazaouis, qui sont comme nous, enfin, je veux dire, ils vont chez Etam, ils vont au restaurant. Et quand vous allez dans le Bled ou dans des quartiers pauvres, là, en revanche, c'est très, très proche de Rome. C'est crasseux. Il y a de la prostitution partout. Peut-être pas aussi terrible que ce que j'ai pu décrire à Rome, mais il y a un rapport à l'autre, un rapport aux enfants, un rapport aux femmes qui peut être assez semblable. Et la magie existe et les gens y croient et c'est un quotidien. Donc je pense qu'il y a vraiment des liens à trouver. Et le rhum que j'ai voulu décrire, en tout cas, c'était ce rhum-là qui m'intéressait. C'était vraiment aussi le contraste entre ces familles patriciennes extrêmement riches et puis finalement extrêmement protégées, parce que Lucrezia, au départ, ne les voit même pas. Et puis finalement, elle arrive au bout d'un moment, elle va dans le Vela, contrainte et forcée, elle se rend compte que oui, non, quand même, la fille qui est morte là, toute nue, bah non, ça aurait pu être elle. Et c'était ça qui m'intéressait aussi, c'était ces prises de conscience, ces choses qui se cachent, qui restent cachées.
Même si c'est une Rome uchronique, je suppose qu'il faut rester cohérent dans cette Rome-là et donc savoir ce qu'on dit. Ça exige une documentation formidable.
Oui, oui et non. Enfin, je veux dire, oui, je me suis beaucoup documenté en particulier sur le mitraïsme quand même que je connaissais pas spécialement. Donc à ce niveau-là, pour ne pas dire de bêtises, et puis il y a des choses que j'étais obligée de reconstituer en même temps, hein, parce que comme toutes les religions de l'Antiquité, quand le christianisme a triomphé, il s'est débrouillé pour effacer les traces derrière lui, à savoir que les temples ont été détruits, les textes ont été détruits, les statues ont été martelées. Et donc, en fait, on n'a pas un seul texte, donc, l'évangile, entre guillemets, mais ce n'est pas l'évangile, mitriaque. Donc, là, par exemple, pour les cérémonies, les cultes de mystère, j'ai reconstitué, avec une part d'invention, hein, forcément, et même une grande part d'invention, mais ce qui m'a semblé plausible. Donc, il y a une part de reconstitution et puis il y a une part effectivement de documentation. Je ne voulais pas écrire quelque chose comme je peux lire, et je ne nommerai personne, dans certains romans de fantasy où c'est que du carton pâté, c'est-à-dire ou comme dans les péplums hollywoodiens, n'est-ce pas, de la première moitié du même peut-être de la deuxième moitié du XXe siècle, à savoir que on n'y croit pas une seconde. On voit bien que tout est faux, quoi, ou qu'il n'y a pas de cohérence, qu'il n'y a pas de consistance. Je voulais réellement un univers très consistant. Et je dois dire, j'insiste à nouveau, quand j'ai vu cette série Rome, j'ai été un peu, et j'étais enthousiasmée et dépitée, je me suis dit, mais c'était ça que je voulais faire. Voilà, c'était ça que je voulais faire. C'est-à-dire un univers et un décor extrêmement cohérent, précis, historiquement exact. Par exemple, en regardant cette série, la verrerie bleue romaine est une copie conforme de la verrerie d'époque. Hein. C'est par des Italiens, ils savent très bien faire. Et en même temps, des personnages de chair, de sang qui vivent, qui sont des gens finalement ni bons ni méchants, parce que c'est ça qui est assez remarquable dans cette série, c'est qu'il n'y a pas vraiment ni de bons ni de méchants. Et en même temps, on voit des gens qui vivent et c'est passionnant. Et je voulais faire ça. Des gens qui vivent dans un vrai univers, pas un univers affadi, pâle.
Bon. Mais chez Rachel, on peut permettre peut-être des inexactitudes, puisqu'on n'est pas dans une époque historique réelle. Chez Christina et Charlotte, on ne peut pas se le permettre, puisque vous êtes dans une tranche d'époque donnée. Alors, vous avez toute l'histoire de Rome en tête.
J'aimerais bien. Non, on est obligé de travailler avec beaucoup de documentation. Et c'est vrai que, pour ma part, pour le début de l'Empire, c'est une période qui est très connue, sur laquelle on a beaucoup de sources. Et donc, on ne peut pas se permettre de faire des bêtises. Ce qui est difficile pour un roman historique, c'est justement de raconter une histoire et non pas de faire un cours d'histoire. Ça, c'est ça le problème quand on fait un roman historique. Il faut que ça passe tout seul. Donc, on étudie énormément de documentation pour ne pas faire des bêtises. Mais il ne faut pas que le livre vous tombe des mains, parce que sinon on a raté notre coup, comme on dit.
Et Charlotte ?
Pour tout vous dire, moi j'avais commencé il y a peut-être plus 4-5 ans à vouloir écrire un roman sur Rome, et j'étais tombée exactement dans le piège que décrit Christina. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à me relire, le bouquin m'est tombé des mains, j'ai pris un vrai essai historique, qui là était vraiment bien. Donc en fait, j'ai essayé pour mon roman évidemment, je me suis documentée, mais d'oublier la documentation. Et puis au bout d'un moment, tant pis. De toute façon, c'est un roman. Je ne suis pas historienne, je suis, euh, je suis écrivain, donc ce sera toujours une fiction. Donc oui, Yann, bien sûr, il faut être vraisemblable. Bien sûr, j'espère ne pas avoir dit d'énormité dans mon roman, mais il y a aussi une part d'imaginaire, et mes personnages sont imaginaires. Et Lucrezia, j'espère peut-être qu'il y a une Lucrezia à Rome, mais enfin une Lucrezia comme mon héroïne. Mais
Lucrezia. Il y en a très certainement.
Oui,
une.
J'espère.
J'essaie certainement. Ouais.
Voilà, mais en fait, c'est vrai qu'après, il y a toujours cette part d'invention.
Et Fabien, c'est la même chose pour une Rome parallèle que pour la Hongrie du je ne sais plus quel siècle.
Alors la Hongrie, non, c'est un petit peu différent parce que c'est le 11e siècle et c'est vraiment un roman historique de fantasy. C'est-à-dire que les faits sont historiques, mais comme là la documentation est très trouée, j'ai comblé les trous de l'histoire hongroise avec de la fantasy. C'est-à-dire un personnage décède, on ne sait pas pourquoi, peut-être de vieillesse, peut-être de maladie, peut-être assassiné. Moi je sais pourquoi, j'ai une explication qui est dans le livre. Mais évidemment, elle est inventée. Donc là, le procédé était totalement différent parce que dans La Cité de Satan, je procédais donc à ce renversement, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et le but, moi, c'était aussi donc de créer une Rome, si possible, crédible. Enfin, là, c'est Lutèce, en l'occurrence. Mais aussi à partir d'éléments antiques. Donc, en fait, j'ai inventé des détails, c'est-à-dire j'ai inventé un argot. L'argot du cloaque, parce que mon idée c'était de faire aussi un peu du roman feuilleton, hein, donc j'avais lu Les Mystères de Paris juste avant, et donc je me suis inspiré de ça, donc en reprenant des idées, soit du vocabulaire latin un petit peu transformé, soit des expressions latines qui existent déjà, soit des inventions pures. J'ai inventé c'est l'illusionnisme, hein, c'est de donner l'impression qu'on a inventé une littérature, de mettre quelques extraits de littérature inventée avec des titres, des personnages, en les mêlant avec des citations réelles, avec des clins d'œil à des personnages existants, hein, etc. Et donc tout ça doit donner l'idée que ça a réellement pu exister. Sachant que moi, comme ça se passe quand même, donc c'est l'équivalent du 19e siècle, il y a aussi un progrès technologique. Là, je me suis un peu rapproché de l'esthétique steampunk, où on retrouve par exemple le vapor, c'est-à-dire un gaz, qui est une espèce de gaz naturel, et qui est, sachant que moi je suis parti de l'idée que la Chine ayant fermé ses frontières, si je puis dire, la poudre n'a pas été vraiment utilisée, quoi, ça reste très marginal, donc ils ont tout créé à partir de ça, donc c'est plutôt air comprimé, tout ce qui est gaz incandescent, etc. Donc par exemple j'ai modifié les combats de gladiateurs où il y en a un qui est avec une espèce de tuyau qui essaye de repousser l'autre, mais en reprenant la façon dont fonctionnaient les gladiateurs à l'époque. J'ai lu un livre qui est extrêmement bien, mais qui m'a beaucoup plu, j'ai oublié le titre, où on montre bien que les combats de gladiateurs, déjà ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu dans les films, mais rien à voir, un gladiateur c'est quand même du grand n'importe quoi, même si le film est très sympa. L'opposition de deux gladiateurs, en fait, c'est avec, il y en a un qui est armé de façon légère et l'autre qui est armé de façon lourde, et c'est l'opposition entre deux types de boucliers, sachant qu'il y a le grand bouclier qui protège beaucoup, donc un gladiateur qui va être plutôt fixe, qui va se défendre, qui va être très protégé et très armé, donc il risque de fatiguer vite. Et un autre beaucoup plus léger et moins protégé qui va bondir autour, notamment en essayant d'avoir des armes qui permettent de contourner le gros bouclier. Le Thrace, par exemple, il a une arme courbe, la Sica, si je me souviens bien, qui permet de contourner et d'attaquer, on le voit sur des gravures, enfin sur des sculptures, pardon, des bas-reliefs, où il essaye d'attaquer par au-dessus, et des mosaïques aussi, effectivement. Donc voilà, et donc moi j'ai repris ça avec un qui a une espèce de gros tuyau et qui crache de l'eau pour repousser son camarade, qui essaye de sauter dans tous les sens pour se rapprocher et atteindre son adversaire. Voilà, donc c'est ce qui est amusant, c'est la transformation. Par contre, pour faire un roman historique, et effectivement, moi je pense que la bonne technique, c'est vraiment de lire beaucoup, de beaucoup se renseigner et de laisser un petit temps de latence après, de tout oublier,
oui, tout à fait,
pour que quand on va inventer quelque chose, on ait le réflexe, non pas la démarche intellectuelle, mais juste le réflexe d'imaginer quelque chose qui est dans le ton de ce que les Romains auraient pu faire.
Mais il y a juste un autre petit détail aussi que je veux rajouter. Je le répète tout le temps, alors vous allez peut-être me dire il y en a marre, mais il y a autre chose qui fait que lorsqu'on écrit du roman historique pur, on ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi. C'est peut-être dû à mon éducation, je ne sais pas, mais on travaille avec des personnages qui ont existé, donc on travaille avec des morts, et avec des morts, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc il faut quand même faire un minimum attention.
On ne peut pas faire n'importe quoi avec les morts ?
Quand on fait du vrai roman historique, il faut quand même faire attention, il y a un minimum de respect à avoir, je pense.
En tant que lectrice, quand je lis un roman sur le Moyen-Âge qui commence par le chevalier mettait à cuire les pommes de terre sous la cendre et à manger la tomate, moi je referme le livre de suite. Oui, c'est ça, parce que ça me sort totalement. Tout à coup, je suis complètement sortie du livre, quoi. Je peux pas.
Mais justement, hier, dans un autre débat, Marianne Lecomte parlait de son roman Le manuscrit de Grenade, où elle a fait une grande erreur historique dont elle s'en veut encore. Elle a introduit une tomate en Espagne en 1491. C'était un peu trop tôt. Mais voilà, malgré tout, il reste, je suppose, encore des erreurs. Et puis, c'est de la fiction, on s'en fout un peu, non ? Ah, c'est pas la tomate qui va changer notre avis sur un bouquin.
Mais dans les péplums, vous avez des légionnaires romains qui mangent des tonnes de maïs, c'est pas grave. Oui.
En tant qu'enseignant, quand même, moi, je pense aussi à l'aspect didactique du livre. Et c'est vrai qu'il vaut mieux éviter de faire croire des bêtises. Même si, évidemment, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Si Rome peut être autant utilisé, c'est un peu comme le western chez les Américains. C'est fait pour raconter une histoire qui n'a rien à voir avec la conquête de l'Ouest. C'est une histoire mythologique. On peut remarquer, quand on regarde un péplum, les Romains de haute classe, en général, ont l'accent anglais, britannique. Oui. Alors que ceux du peuple ont un accent américain. Donc ils rejouent un petit peu la colonie américaine. Et donc, pour eux, ce n'est pas une manière de faire de l'histoire, c'est une manière de mythologiser, si je peux me permettre ce néologisme, de mythologiser leur propre histoire. Et c'est un peu ce qu'on fait nous aussi. Très souvent, quand on parle de l'Empire romain, on a quand même toujours l'idée de l'Empire américain et du pouvoir qu'il a actuellement, même s'il se fonde évidemment sur des puissances qui ne sont pas du tout les mêmes que l'Empire romain.
Ce que j'avais trouvé très rigolo aussi, c'est quand même les Romains mythologisent et falsifient leur histoire. C'est-à-dire que les douze Césars, c'est à pisser de rire quand même. Je veux dire que c'est de l'histoire politique, enfin c'est de la propagande, c'est des gens qui...
c'est panégyrique, les deux Césars. C'est panégyrique, donc c'est normal, c'est de la propagande. Panégyrique par définition, c'est...
Mais qui a été considéré pendant longtemps aussi comme la vérité, et ce qui n'était pas le cas, et les Romains changeaient les choses, et c'est ça qui est drôle aussi, quoi. C'est de voir ces changements historiques, ces propagandes, ces transformations.
Charlotte, explique ce que c'est les douze Césars. C'est le bouquin de Suétone dont tu veux parler.
Ça lui a valu sa place, d'ailleurs.
Non, mais parce que tout le monde ne connaît pas par cœur tout ça.
Je vois qu'ils sont tous connaisseurs. Je vois des gens qui hochent la tête. Je vois qu'ils sont tous connaisseurs. Donc
voilà.
C'est bouquin... Là aussi, on apprend énormément de choses sur des empereurs qui sont complètement... dès qu'ils n'aimaient pas un empereur, l'empereur devenait sanguinaire, était... j'ai plus
un bon passage en terre. En réalité, c'est ceux qui avaient des mauvaises relations avec le Sénat et qui étaient toujours maltraités. Voilà. Ceux qui avaient des mauvaises relations avec le Sénat étaient traités plus bas que terre dans la vie des douze Césars. Et ceux qui, au contraire, avaient été très respectueux et gentils avec le Sénat, donc en réalité, qui on voit qui parle, ben c'est un sénateur, c'est-à-dire c'est la caste romaine, quoi, en fait, tout simplement. Je m'excuse, je t'ai coupé, Charlotte, excuse-moi.
Mais à la fin du bouquin de Charlotte, il y a tout un glossaire avec des explications historiques, religieuses et... de vocabulaire aussi, pas du tout chez Christina.
Au début, si. Mais là, j'en suis à mon 16e bouquin et j'ai arrêté.
Et nous, c'est vraiment la collection qui veut ça. C'est vraiment la collection Courant Noir qui fait qu'à chaque fois, à chaque fin, il y a un petit dossier pédagogique, le glossaire et tout ça.
Mais est-ce que vous avez l'intention de faire œuvre aussi de didactisme en faisant ce genre de roman, Charlotte et Christina ?
En fait, ce qui m'intéressait aussi dans ce roman, c'était de parler de famille reconstituée. Donc, je ne sais pas si c'est très didactique, ce que j'ai écrit. Je suppose que la collection a une intention didactique, c'est évident. C'est des polars historiques, c'est généralement les livres, les romans de cette collection sont plutôt bien faits. Il y a toujours effectivement ces dossiers pédagogiques, mais l'idée c'est de pas emmerder nos lecteurs adolescents avec des alors ça se passait exactement comme ça et là il a mis la pied à gauche. Non, c'est vraiment de raconter une histoire. Et voilà, c'est pour ça que je vous dis que le thème du moi c'était les familles reconstituées et que ça se passait aussi très mal à Rome.
Non, moi le but c'est pas du tout de vous faire de vous injecter l'histoire romaine par
intraveineuse.
Non, c'est je parle pas pour toi, mais c'est pas mon but. Mais moi c'est vrai que moi tout ce que je veux c'est transmettre cette passion que j'ai pour Rome. Si au passage vous apprenez quelque chose, tant mieux, c'est génial. Mais moi, je veux surtout vous raconter une histoire. Moi, je suis romancière, je ne suis pas historienne.
Rachel, les deux bouquins sur Rome uchronique, ça date déjà un peu. Alors, est-ce qu'il y en aura un troisième, un quatrième? Tu continues dans ce genre-là?
Probablement pas, non. J'aime Rome. Je trouve que c'est effectivement, il y a ce côté que mes collègues décrivent complètement exotique. C'est-à-dire que je trouve que quand on se plonge dans un univers avec... Ça dépayse complètement. Et mon but aussi, comme viennent de le dire Charlotte et Christina, c'est avant tout, même si je suis historienne, c'est avant tout de raconter des histoires et de dépaysager le lecteur, quoi. C'est de le placer dans un environnement où... Et si ensuite, effectivement, il apprend quelque chose et que ça l'intéresse, tant mieux. Mais donc, il y a d'autres périodes, quoi. Par exemple, le troisième roman, c'était un préhistoire complet, quoi. Donc, vraiment, rien du tout à voir, mais du tout avec Rome. Et puis j'avais commencé une histoire que peut-être je vais terminer, on ne sait jamais, sur la Grèce mycénienne du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Comment dire, l'univers est vaste, le monde est merveilleux, il y a plein d'époques historiques. Rome c'est très bien, mais j'ai pas envie de me cantonner à une période, non, pas du tout.
Christina, elle est un peu obligée de continuer à suivre Caeso.
Ouais, moi j'ai le pistolet sur la tempe. Non, c'est pas vrai. J'ai une série de polars, et c'est vrai que moi j'adore, c'est la première fois que je fais ça, c'est ma première série de polars historiques, donc ça va continuer pendant un petit moment puisque les personnages sont récurrents et puis que j'ai envie de le faire vivre un peu plus longtemps. Mais c'est vrai que j'ai aussi travaillé sur Rome, j'ai aussi fait des romans contemporains, je fais du manga, donc je suis ouverte à tout.
Oui, il y a eu même un roman grec, Tyra de Sparte.
Oui, Tyra de Sparte, qui se passait justement, qui racontait la bataille des Thermopyles, parce que j'étais pas du tout... Justement, ça me hérissait ce qui se disait sur le mythe des 300 pauvres Spartiates face aux Perses. Ah,
par rapport au film, 300.
Oh non, bien avant déjà.
Charlotte, un one-shot?
Princesse des Os?
Oui.
Mon éditeur me réclame une suite. Et j'ai une idée, mais
c'est
je sais pas.
Ah, mais c'est
que c'est... ça marche. En fait, je pense que je vais écrire une suite, mais pas tout de suite. Voilà. Non, mais j'aime pas être. Mais pas de bousculer, c'est passer à autre chose. Justement, le polar historique, c'est ce qui permet aussi des fois de passer à autre chose. Donc là, je vais laisser reposer Princesse des Eaux encore peut-être un an ou deux, et après j'écrirai un autre roman dans cette Rome-là, probablement d'ailleurs qui parlera de voyage et qui finira en Mauritanie, donc voilà, avec les mêmes personnages.
Et Fabien?
Moi justement, là, j'ai un projet où je pense que je vais commencer à rédiger en rentrant à Budapest dans quelques jours. L'idée serait de partir de la défaite des légions de Varus en 9 après Jésus-Christ. C'est l'armée romaine qui a essuyé la plus grande défaite qu'elle ait jamais connue, où trois légions étaient complètement massacrées dans la forêt de Tobourg. Et donc de partir de là pour faire une description assez âpre, avec cette forêt germaine, avec ces arbres immenses, il y a un côté un peu
style
Vietnam.
Le début de la bataille chez Gladiator.
Voilà, c'est ça, ce style-là. Et puis un peu vraiment le style Indochine. Parce que moi, j'aime bien justement pouvoir accumuler un certain nombre de références en même temps pour ne pas me limiter à une allusion. Mais je pense à ça. En tout cas, moi, je regarde des films sur l'Indochine pour me mettre dans l'ambiance, sur le Vietnam, avec l'ennemi invisible, etc. Et évidemment, je rajouterais, ils vont découvrir une espèce de chose bizarre dans cette forêt germaine qui sera sans doute à l'origine de leur défaite. Voilà. Et je n'en dis pas plus, parce qu'après, ce serait trop. Non.
Il est prévu pour quand ?
Je dois rendre le manuscrit en décembre. Il doit sortir en avril ou mai 2012.
Un genre de Grinch, en fait, quoi.
Pardon ?
Un genre de Grinch, comme dans Hyperion.
Oui, enfin, ça va...
Un genre, disais-je.
Voilà, on verra. Enfin, évidemment, je sais à peu près ce que je vais raconter, mais voilà, je vous encourage à le lire, bien sûr, dès qu'il sera sorti. Ou en tout cas, l'acheter. Hein. C'est le plus important, quand même.
Christina, est-ce que en établissant... vos histoires de policiers dans la Rome d'Auguste, vous aviez l'impression de subir une mode, vous avez choisi ça tout seul parce que la mode était un peu à Gladiator, à Rome la série et à d'autres films du genre. Est-ce que c'est un choix vraiment unique et personnel, ou bien est-ce qu'on vous a un peu obligé de choisir cette époque-là?
Je vais vous dire tout simplement, moi je suis tombée amoureuse de Caligula quand j'avais 13 ans. Donc c'est
grâce
vieux.
À Camus.
Pas du tout. Grâce à un portrait en fait que m'avait offert mon grand-père, c'est un portrait de Caligula qui est au musée de Venise. Et c'est un portrait qui sourit, c'est très rare chez les empereurs romains. Et je suis tombée amoureuse de lui comme ça. Et donc moi, mon amour de Rome, il remonte. Hein. Je vais pas vous donner mon âge, mais il remonte. Donc non, et j'ai voulu n'ont rien à voir avec la mode, très sincèrement.
Est-ce qu'il y a une mode Rome?
Non, je pense pas. Hein.
La mode du peuple, elle est repartie avec Gladiator, donc on a quand même des films qui ressortent maintenant, c'est-à-dire que ça devient intéressant financièrement de faire un peplum. Donc on a eu une petite flopée de peplum. Là, il y en a encore un qui sort sur les légions.
L'aigle de la Légion, je crois.
Voilà, l'aigle de la Légion, qui est l'adaptation d'un roman qui date des années 50-60, hein, si je me trompe pas.
Mais il n'y en a pas beaucoup quand même. Hein.
Il y en a quand même un certain nombre, il n'y en avait pratiquement plus.
Voilà,
comme Danse avec les loups a un peu relancé le western, donc périodiquement on en a, là il y en a quelques-uns, je suis pas sûr que ça sente beaucoup en littérature, et puis de toute façon il y a plein de modes qui se chevauchent, parce que d'un côté on va avoir la bitlite avec les vampires, de l'autre côté on va avoir le péplum, oui mais ça va passer aussi, ça bientôt, on a eu le Seigneur des Anneaux qui a relancé quand même beaucoup la fantasy, manifestement elle est un peu en perte de vitesse actuellement. Plein de modes se chevauchent, après, à part faire un roman sur, je sais pas moi, je peux même pas imaginer un truc qui pourrait ne ressembler à rien, mais on tombe toujours plus ou moins dans une mode.
Ça, on peut toujours imaginer un truc qui ne ressemble à rien.
Oui, ah oui, je sais pas si je vais m'y essayer, mais...
Non, et puis moi j'ai écrit, non mais en plus, plus sérieusement, j'ai écrit mon premier roman historique il y a 12 ans, et c'est un livre sur Sporus, le nuque de Néron, qui m'avait valu le prix du premier roman il y a 10 ans. Donc ça date pas d'hier. Hein.
Avant Gladiator, moi aussi. Gladiator n'était même pas sorti à l'époque.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On a encore 5 minutes. Quelqu'un veut-il poser quelque chose? Fabien?
Ah ben bien sûr, je la connais. Je la connais, c'est d'ailleurs moi qui vais la lancer. Pour l'instant, je préfère ne rien dire parce que c'est une question de com. Hein. Mon éditeur m'a dit non, n'en parle pas. Donc il y aura un plan planétaire, hein, de diffusion. Ça, je peux le dire. Hein, ce sera déjà de l'Eurovision, puis de la Mondovision. Ce sera énorme. Non, il paraît que c'est les anges maintenant qui sont à la mode.
Ça fait longtemps déjà, ça fait un an.
Tu sais,
déjà passé de mode, les anges?
Je sais pas. Ils sont peut-être déjà envolés, on va savoir. Mais je crois qu'on m'a dit que c'était les anges.
Ouais. Très franchement, si on savait, je crois qu'il y aurait beaucoup d'éditeurs qui se lanceraient dans le créneau.
Je savais. Hein.
Oui, mais tu gardes secret, toi, c'est nul.
Ça dépend, on peut en discuter.
On peut négocier, voilà. On se voit tout à l'heure.
Quelqu'un d'autre? Non, c'est que c'était clair pour tout le monde. Oui, monsieur.
Mon bon monsieur, je suis incapable maintenant d'écrire en espagnol. Ça fait, l'éditeur est obligé de prendre un traducteur pour traduire mes romans en espagnol. Ça fait, ça c'est terrible. Je n'ai plus de vocabulaire en fait. J'ai tellement vécu en France et à force d'écrire en français, je perds le vocabulaire. Et autant je suis capable de parler ou de tenir une conversation, autant je suis incapable d'écrire un livre. Par contre, je peux taper sur la tête du traducteur quand je relis. Ça, je sais faire.
Encore quelqu'un? Oui, Jacques.
Question pour Christina. Dans les romans historiques, il y a des bons auteurs et il y a des auteurs qui sont un peu moins bons. Les bons auteurs, c'est...
Dans lesquels vous me classez?
Je ne me classe pas pour l'instant. Vous allez vous classer seul.
Dans les bons, bien sûr.
Dans les bons, par exemple, c'est celle qui a relancé la mode du roman historique, Elise Peters.
Ah, frère Katfell, génial, magnifique. Toujours. Elise Peters, toujours.
Et donc, est-ce que dans vos romans, l'intrigue policière est liée à l'époque, dans ses comportements, ou est-ce que c'est simplement un décalque d'une intrigue policière qu'on pourrait situer à l'époque actuelle et plaquée sur n'importe quelle époque historique?
Si je vous dis qu'Elise Peters est l'une de mes déesses plus vivantes, hélas, elle est décédée il y a peu, mais non, ça a été justement l'un des auteurs qui m'a donné envie d'écrire du polar historique. Donc non, c'est vraiment, c'est vraiment dans le style d'Elise Peters, c'est-à-dire que l'intrigue est vraiment calquée sur quelque chose qui se passe à l'époque, sur un événement qui a eu lieu à l'époque, et je brode là-dessus. Ce n'est pas du tout, par exemple, je vois une série à la télé, tiens, je vais faire la même chose à Rome. Non, rien à voir.
Donc vous êtes un bon auteur de romans policiers.
Merci beaucoup.
Quelqu'un d'autre? Oui, monsieur.
Oui, vous avez parlé de Suétone tout à l'heure, qui est sans doute à l'origine quand même de la réputation, de l'image terrible pour Néron, par exemple, hein, qui a créé cette image de Néron qui est très comme un fou furieux, etc. Alors que l'image de Néron est quand même en train d'évoluer aussi grâce à Gerfagnon, justement. On a parlé de Gerfagnon aussi. Bon, lorsque vous écrivez un roman historique, par exemple avec Néron, vous devez finalement faire cohabiter des personnages réels,
oui,
les empereurs, je parlerai ça tout le monde ici, et puis des personnages fictifs. Finalement, quelle image retenez-vous? Celle d'un contemporain de Néron, c'est-à-dire Suétone, l'historien romain, ou bien celle de Gerfagnon, qui est une relecture finalement de l'image des empereurs romains?
Alors, moi, je peux vous donner mon avis en tant qu'auteur, mais je vais peut-être laisser d'abord répondre les historiens, parce que...
Je ne peux pas répondre, parce que moi, j'écris de l'Uchronie, donc les personnages sont fictifs, en fait. Hein.
D'accord. Alors, en fait, on se base toujours sur les sources historiques. Une fois que vous avez... Je suis désolée, hein, là, je parle un peu cuisine. Hein. Une fois que vous avez lu ces sources littéraires, il faut rechercher des preuves. Parce que, par exemple, c'est le cas pour Suétone, il faut essayer de prouver ce qu'il dit. Il y a des traces, il y a des preuves archéologiques, il y a des témoignages qui se recoupent. Ça, c'est un travail qu'il faut faire avec des historiens, avec des conservateurs, avec des archéologues. Une fois que vous avez fait tout ça, il y a quelque chose que souvent les historiens oublient, c'est l'humain. Il faut être un peu logique. Donc, une fois que vous avez fait votre petite soupe, alors ça ne veut pas dire forcément que vous avez raison, mais il faut quand même avoir une théorie plausible, et à partir de là, vous pouvez faire un personnage cohérent. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question.
Voilà, donc n'oubliez pas d'aller acquérir de l'autre côté du parc les bouquins de Rachel Tanner, de Christina Rodriguez, de Charlotte Bousquet, de Fabien Clavel. Je vous remercie de votre attention et je les remercie de leur prolixité.
Merci à vous.
Merci.